France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir l'inquiétant rebond du surendettement, car le nombre de dépôts de dossiers a augmenté de 12% sur les 10 derniers mois de 2024. La faute au crédit, certes, mais pas seulement. En France, il existe des ménages en situation de surendettement juste pour payer leurs charges courantes. Évidemment, les cas concernent principalement les foyers précaires, mais là encore, pas seulement. Et je vous renvoie à l'enquête des Échos qui écrivait en septembre dernier que le surendettement est aussi un problème de riches. Il suffit parfois d'un accident de la vie pour ouvrir une procédure de surendettement. Procédure dont nous verrons ce soir comment elle fonctionne et quelle est sa finalité, car au final, donc, n'oubliez pas, il faudra bien tout rembourser. J'attends vos questions, vos témoignages sur le surendettement. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec trois invités EES, d'ailleurs, ce soir pour vous répondre. Hélène Tanguy, directrice des particuliers de la Banque de France. Sandrine Wabian, directrice générale du CREDOC, hein, le centre de... J'ai corné votre nom
parce Oui, que... Sandra Wabian.
Sandra Wabian, directrice générale du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et nous sommes en ligne avec Pauline Dujardin. Vous êtes juriste, déléguée générale de la Fédération Crésus, cette fédération qui regroupe une trentaine d'associations engagées justement dans la lutte contre le surendettement. Bonsoir à toutes les trois. Hélène Tanguy, je vais me tourner vers vous, je viens de citer un chiffre, vous êtes la directrice des particuliers de la Banque de France, je le disais en introduction, le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 12% à la fin de l'année 2024. Comment est-ce qu'on explique ça ?
Alors peut-être juste pour rappeler exactement ce que c'est le surendettement c'est une situation où vous n'allez plus pouvoir faire face à vos dettes malgré tous vos efforts. Ça peut concerner des dettes bancaires, hein, ce sont les dettes de crédit, de crédit immobilier, de crédit à la consommation, de découvert, mais effectivement ça peut être aussi des dettes de loyer, des dettes de charges courantes, factures et autres. Donc par rapport à cette situation de surendettement, à la Banque de France, nous avons reçu effectivement en 2024 135 000 ménages qui ont déposé un dossier de surendettement. C'est en augmentation, nous avons 13 000 ménages de plus que l'année passée en 2023. Du fait d'une situation économique et sociale moins favorable. Pour autant, par rapport à ce que vous disiez, il n'y a pas vraiment de bouleversement et d'explosion de la situation. Hein. Si on prend la situation sur 10 ans, 2014-2024, on est plutôt sur une forte baisse du nombre de
sur 10 ans, sur la décennie.
Sur la décennie, on est sur une forte baisse. On avait 230 000 dossiers il y a 10 ans. On est à 135 000 ménages aujourd'hui. Donc on a plutôt une situation qui s'est améliorée sur l'ensemble sur les deux dernières années.
Et on verra pourquoi dans un instant. Juste sur l'année 2024, et je reviens vers vous, Hélène Tanguy, c'était des chiffres, plus 12% sur les 10 premiers mois de l'année 2024. Est-ce que la période de Noël, tout simplement, a encore aggravé ? Avez-vous des chiffres sur les deux derniers mois ?
Alors sur l'année, hein, sur l'année complète 2024, on est à 135 000 dépôts de dossiers. Il faut savoir que lorsqu'une personne dépose un dossier de surendettement, c'est souvent parce qu'elle a des problèmes financiers depuis un an, voire deux ans. Hein, elle a des difficultés financières qui remontent déjà à plusieurs mois, quelquefois plusieurs années, et au final, elle va déposer un dossier. Donc il n'y a pas vraiment une problématique proche des fêtes de Noël.
Sandra Wabian, directrice générale du CREDOC, chacun peut donc sombrer dans le surendettement. Ça peut dépendre d'un simple, on mettra simple entre guillemets, accident de la vie.
Oui, alors pour reprendre un petit peu ce que vous disiez au démarrage, ça concerne quand même plutôt des ménages qui sont modestes, voire pauvres. La moitié, en fait, a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Et effectivement, dans 6 cas sur 10, on est suite à une séparation, un décès, un licenciement, un divorce, un accident de la vie, en fait, qui fait que l'équilibre financier est remis en cause. Donc, on est quand même sur des foyers plutôt modestes, des foyers monoparentaux, des personnes seuls, des chômeurs, des gens qui, en fait, ont des revenus qui sont quand même, en moyenne, plus modestes que l'ensemble de la population française.
Pauline Dujardin, juriste et déléguée générale de la Fédération Crésus, Quand une personne ou un ménage cherche des issues de secours pour se désendetter, est-ce que ce schéma est plutôt bien fléché ou est-ce au contraire une sorte de maquis administratif décourageant ?
Alors, de plus en plus, il y a quand même beaucoup de solutions pour se faire orienter, pour se faire aider à s'orienter. Et notamment, depuis 2019, c'est une expérimentation qui existe depuis 2016, il y a des associations, les points conseil budget, qui ont été labellisés par l'État pour aider ces personnes à s'y retrouver. Après, je dirais que le plus compliqué, c'est effectivement de trouver l'interlocuteur, mais c'est aussi de prendre conscience de sa situation et de se dire qu'on a besoin d'aide. C'est très dur de demander de l'aide. Donc moi, je travaille avec les 27 associations du réseau. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que les gens vont même potentiellement venir nous voir pour un crédit, pour payer des dettes, sans imaginer que la procédure de surendettement dont on parle ce soir peut être faite pour eux. Donc je dirais que c'est un peu compliqué de trouver comment se faire aider, mais je dirais que c'est aussi une problématique personnelle de réussir à faire le point sur son budget et se dire « là, j'y arrive plus, j'ai besoin d'aide ». Et moi, je dis toujours, quand on se pose des questions sur le budget, même si on n'a pas encore de dette, il faut venir se faire aider et aller voir des associations. Je parlais des points conseil budget, mais également les associations Crésus qui sont là pour faire un bilan, faire un diagnostic et ensuite proposer des solutions. Plus on vient tôt, plus il y a de solutions.
Hélène Tanguy, pour la Banque de France, ce ne serait donc pas du surendettement toujours pour des biens de consommation, mais bien pour payer ses charges. Les auditeurs nous demandent, on fait des crédits aujourd'hui pour payer son loyer, payer ses factures ?
Alors, la majeure partie des ménages qui déposent un dossier de surendettement, ce sont pour des problématiques de crédit à la consommation ou de crédit immobilier. Les crédits à la consommation, ça représente 40% des dettes des surendettés, les crédits immobiliers 30%. Donc, la grande majorité, ce sont pour des crédits bancaires. Mais, effectivement, on a aussi une part de personnes qui ont des arriérés de loyer, des problématiques de facture. Donc là, effectivement, ce qu'on dit aux personnes, comme le disait Pauline Dujardin, en premier lieu, dès qu'on a des problématiques de paiement, des difficultés financières, on conseille d'aller voir son banquier. Il y a eu de creux efforts depuis une dizaine d'années par les banquiers pour détecter les clients fragiles, pour essayer d'avoir des démarches proactives avec eux et pour trouver des solutions. Et puis, effectivement, ensuite, d'aller voir des associations, les points conseil budget, toutes les associations familiales, de consommateurs. Et effectivement, lorsqu'une situation de surendettement est diagnostiquée, à la Banque de France, nous accueillons les personnes. Nous sommes vraiment présents sur tout le territoire. Je rappelle que donc, nous avons une succursale dans chacun des départements et également des bureaux d'accueil pour accueillir les personnes. Et nous avons un numéro d'appel qui est le 3414 où nous allons pouvoir voir avec la personne si elle est effectivement dans une situation de surendettement et l'orienter aussi vers les associations les plus proches.
Alors, ce que demandent les auditeurs aujourd'hui, je le vois sur notamment les petites notes WhatsApp et je me tourne vers vous, Sandra Wabian, directrice générale du Crédit. C'est que l'on peut être, on peut s'endetter sans aucune dette de crédit. Les auditeurs aimeraient bien expliquer un peu ça.
Oui, en fait, on a eu pendant 2 ans une inflation très importante et notamment sur les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation, qui fait que même si les salaires ont augmenté, les salaires n'ont pas rattrapé l'augmentation des prix. Et donc, on a une augmentation de la proportion de Français, par exemple, qui disent qu'ils ont froid chez eux, c'est-à-dire qu'ils essayent en fait de réduire leurs dépenses énergétiques, mais malgré tout leurs efforts, ils peuvent être en payer de loyer. On a 28% des Français qui disent qu'ils ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. Ça, ce sont les chiffres du médiateur de l'énergie. Et c'est plutôt en augmentation. Donc ces 2 dernières années, avec l'augmentation très forte des prix de l'énergie et des prix de l'alimentation, on a eu des foyers dont le budget était déjà précaire et qui devient très compliqué à boucler.
Parce que cette pauvreté que l'on associe évidemment avec les taux de surendettement, elle se loge aussi dans la pauvreté alimentaire et vous le constatez notamment au Crédoc.
Oui, ce qu'on constate au Crédoc, c'est qu'on a entre 12 et 16% suivant les moments de l'année de Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas nécessairement toujours suffisamment en quantité. Ce sont des foyers sur lesquels on retrouve les mêmes caractéristiques, donc des foyers monoparentaux, des foyers avec d'étudiants également, des chômeurs, des foyers modestes, donc des foyers pour qui la variable d'alimentation l'alimentation devient finalement un budget sur lequel on va essayer de faire des arbitrages en repoussant des dépenses ou en réduisant même la quantité de denrées achetées. Il faut savoir qu'on a eu une diminution de la consommation alimentaire de 8% par rapport à l'avant-Covid. Donc, c'est pas rien, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un peu une chasse au gaspillage. On va essayer d'acheter moins, de moins jeter. Mais il y a également aussi des efforts qui sont faits par les ménages qui sont compliqués.
On va aller au standard de France Inter 01 45 24 7000. Jean-Charles nous appelle de La Rochelle. Bonsoir, Jean-Charles.
Bonsoir Eric.
Quelle est votre question ou témoignage ?
Alors c'est un peu les deux. Alors effectivement, malheureusement, nous ne correspondait pas trop au type de foyer qui a été présenté en début de l'émission. Nous, on n'est pas du tout en difficulté financière. Néanmoins, voilà, on se retrouve dans une situation de surendettement important à 67 ans. Je vais essayer d'être rapide. Moi, ce que je voulais essayer de comprendre, c'était quel est l'intérêt, afin de régulariser une situation, nous c'est un problème immobilier, hein, de saisir et de vendre des biens très à perte. Pour l'anecdote, biens qui sont achetés par des marchands de biens et revendus dans les mois qui suivent au prix normal du marché, et de laisser les gens justement avec une énorme différence à payer, avec pas forcément les moyens qui vont avec. Voilà. Et je voulais aussi remercier l'ensemble des personnes de la Banque de France. Et nous, on a déjà eu un premier moratoire, on est dans un deuxième dossier, et l'accueil et l'accompagnement des personnels de la Banque de France est vraiment extraordinaire.
Eh bien, écoutez, Hélène Tanguy, directrice générale des particuliers de la Banque de France, j'imagine, le prend très bien. Je vais m'adresser à vous, Hélène Tanguy. Cet auditeur ne comprend pas très bien l'intérêt dans un surendettement immobilier de vendre le bien trop vite peut-être, qui lui aurait peut-être justement permis d'étaler un peu mieux s'il avait encore son capital. Que lui répondez-vous ?
Oui, quand une personne donc, est dans cette situation et dépose un dossier de surendettement, on va essayer quand même, dans la mesure du possible, de préserver la résidence principale pour voilà, laisser la personne dans son logement et toute sa famille. Pour autant, lorsque le plan l'exige, le plan de remboursement, on va être amené parfois à effectivement demander la vente du bien quand il n'y a pas d'autre solution, mais effectivement on laisse quand même du temps au ménage pour réaliser cette vente, pour effectivement que le bien ne soit pas bradé.
Pauline Dujardin, déléguée générale de la Fédération Crésus, est-ce que vous voyez aussi chez vous, chez Crésus, des personnes endettées malgré un fort salaire ?
Alors ça arrive, hein, et c'est vrai que vous le disiez en introduction, en fait, hein, le surendettement, ça peut arriver souvent par des accidents de la vie, ça peut être le décès d'un conjoint, ça peut être une séparation, et donc là, quelque part, un budget qui est adapté à un niveau de ressources qui peut être important, bah, devient complètement déséquilibré. Il y a peut-être un point que nous, on voit beaucoup, et je pense qu'à la Banque de France, on voit aussi de plus en plus, ça va être des personnes qui vont aider leurs enfants, des enfants qui sont dans la vie active, qui ont potentiellement eux aussi des enfants, mais qui ont besoin, qui n'arrivent plus à suivre sur les charges. Et donc les grands-parents vont donner un coup de main. Et c'est une situation qu'on voit de plus en plus, avec, pour ces personnes-là, pas forcément d'espoir d'augmentation de ressources. Quoi.
Bien sûr. Pauline Dujardin, question aussi, je vous parlais du maquis. Maquis aussi pour les assurances, demandent les auditeurs, des assurances dont on ne comprend pas toujours très bien ce qu'elles prennent en charge. Là encore, comment y voir plus clair ?
Ben, c'est très compliqué, hein, effectivement, notamment dans le domaine, alors que ce soit de la banque ou de l'assurance, les termes juridiques qui sont utilisés sont assez compliqués à comprendre. Après, au niveau, là, on parle des assurances. Les assurances, on a quand même pas mal d'efforts qui sont faits sur les fiches de renseignement pour que ce soit le plus simple possible. Je dirais que si je dois donner un conseil, c'est déjà lire son contrat. Ouais, on le fait pas tous. Bien lire et puis oser poser des questions, même si ça n'empêche pas des exclusions qu'on n'avait pas envisagées.
Merci. On va revenir vers vous. On a un petit souci de ligne, hein, je vous le dis, Pauline Dujardin. Ça crachote un peu. Alors, je ne sais pas très bien si on va vous continuer cette liaison WhatsApp. On va vous rappeler. Les techniciens derrière la vitre me disent qu'ils vont vous rappeler. Merci de raccrocher, Pauline Dujardin. Et à tout de suite. Le surendettement est parfois au cœur des scénarios de cinéma. C'est le cas notamment de ce film intitulé « Une année difficile » d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Ça date de 2023. Écoutez ce moment, cet extrait de film. Comment Mathieu Amalric, dans le rôle d'un bénévole d'association de lutte contre le surendettement, décrypte devant Pio Marmaille la mécanique du surendettement.
Parcours classique, un premier crédit, Un deuxième, puis un troisième plus gros pour ce petit pavillon. Et trop de charges, pas assez de revenus, et c'est la spirale. Une dizaine de crédits à la consommation qui s'additionnent pour boucher les trous. Et puis les lettres de relance arrivent. Là, on demande à la famille, aux amis.
Allez, des fois aussi, les crédits, c'est facile, hein. On vous pose pas beaucoup de questions. Une case à cocher, vous lisez pas bien ce qu'il y a écrit en petit en dessous. Hop, vous avez l'argent dans la poche. Y a des gens qui font ce genre de choses. C'est dingue.
Voilà, ce qui ressort donc de cet extrait, c'est le sentiment, effectivement, que le crédit à la consommation, c'est plutôt facile à signer, que les organismes de crédit ne posent pas toujours de questions très dérangeantes, et qu'au final, ça peut ressembler à un piège. Ça a été vrai, Hélène Tanguy, pour la Banque de France. Est-ce que ça l'est encore après la loi Lagarde, par exemple, de 2010, où cette loi a changé quoi depuis ?
La loi Lagarde, en 2010, elle a considérablement assaini le marché du crédit à la consommation en cherchant à protéger les consommateurs. On va avoir plus d'obligations qui vont être faites sur les organismes de crédit. Par exemple, on oublie les cartes de fidélité, vous devez payer à crédit automatiquement. On va essayer de réduire tout ce qui est crédit renouvelable, notamment. Et donc, depuis la loi Lagarde, effectivement, vous avez un marché du crédit assaini. C'est ce qui explique en partie la baisse du nombre de personnes sur endettés dont je parlais sur 10 ans, c'est un des facteurs très importants. On peut considérer que maintenant le nombre de crédits renouvelables est relativement modéré et ne concourt pas à un engrenage du surendettement. Il est rare de prendre un crédit pour en rembourser un autre. Donc c'est un des facteurs qui fait que le nombre de personnes surendettées a baissé. Le deuxième facteur, je crois que c'est important d'en parler aussi, c'est une meilleure orientation du marché de l'emploi. Hein. En 10 ans, on a créé 2 millions d'emplois, donc on a un taux de chômage qui est beaucoup plus faible. Et l'emploi, c'est le meilleur rempart contre le surendettement.
Et ça se ressent dans les dossiers. Sur 10 ans, donc on avait parlé ces 10 années où finalement le surendettement baisse en France, même s'il y avait un petit sursaut en 2024. On va aller au standard. Patrick nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Votre question, bonsoir, votre témoignage, allez-y.
Mais nous sommes une association qui avons fêté les 30 ans l'année dernière. En Lot-et-Garonne, exclusivement en Lot-et-Garonne. Et nous sommes. Il y a eu 800 dossiers cette année en Lot-et-Garonne et 400 dossiers sont passés par nous. Voilà. Donc depuis 30 ans, à peu près la moitié des dossiers du Lot-et-Garonne, qui est un département extrêmement pauvre, un des 10 départements les plus pauvres de France, la moitié des dossiers passent par nous. Mmh. Voilà. Ça se passe très bien avec la commission locale. Et nous travaillons en amont et en aval de la commission de surendettement.
Merci bien. On va parler
de dans un instant. Nous appelons SOS surendettement, repartir du bon pied.
Eh bien écoutez, c'est noté. Je vais me retourner vers Pauline Dujardin, puisque la Fédération Crésus gère une trentaine d'associations de lutte contre le surendettement. Il y a beaucoup d'associations en France, comme celle dans le Lot, cette association du Lot-et-Garonne.
Il y a beaucoup d'associations. Alors déjà, en général, hein, les associations sociales qui font du travail social sont formées au surendettement. Je dirais que la particularité qu'on a chez Crésus, c'est que c'est vraiment notre spécialité. Moi j'ai la chance de pouvoir travailler le droit du surendettement quotidiennement, et je pense que c'est une des chances qu'on a. Mais il y a beaucoup d'associations pour aider qui sont pas forcément toujours visibles, mais quand on cherche un petit peu, on finit effectivement par trouver. En tout cas, là je parle pour les associations Crésus. Faut pas hésiter à aller voir sur le site internet où vous retrouvez tous les points d'accueil. Il y en a 220 en France.
Sandra Wabian pour le Crédoc. On parlait du maquis tout à l'heure. Il y a tout de même beaucoup de personnes parmi les plus précaires qui n'ont aucune idée des aides auxquelles dont elles peuvent bénéficier. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ?
Oui, ça c'est un des éternels problèmes par rapport aux aides sociales. C'est la question du non-recours. Dans quelle mesure une aide va pouvoir être vraiment obtenue par ses bénéficiaires ? Avec une tension entre, d'un côté, on distribue une aide à tout le monde, le plus large possible, pour être sûr de toucher vraiment tout le monde. Mais dans ces cas-là, fiscalement, on dépense beaucoup d'argent en fait, et peut-être un peu trop. Ou bien on va essayer de cibler au maximum l'aide, mais il va falloir trouver le public bénéficiaire. Et donc dans les freins à l'accès aux aides, il y a effectivement le manque d'informations, le fait de savoir où aller s'informer. Et puis il y a aussi, on le dit peut-être pas suffisamment, une question de peur de la stigmatisation sociale. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'osent pas franchir la porte des associations parce qu'elles n'ont pas envie de se sentir comme des personnes aidées, parce qu'il y a un discours aussi très présent sur ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent l'assistanat, alors que souvent ces personnes sont dans des situations très difficiles qu'elles n'ont évidemment pas cherché à obtenir.
On en parle jusqu'à 20h. Le surendettement, comment ça marche? Une commission de surendettement? On y revient tout de suite.
France Inter, le téléphone sonne.
Avec Marie qui nous appelle de Paris. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir mesdames. Voilà, moi je suis heureuse de pouvoir vous parler déjà. Suite à une expulsion, il y a 10 ans, j'ai déposé un dossier de surendettement et je voudrais savoir si à mon décès, là j'ai dans les 80, mes enfants seront appelés à payer. Je voudrais savoir si...
Mais je vais poser la question. J'ai compris, je crois, le sens de votre question, Marie. En fait, est-ce qu'en cas de décès, les dettes reviennent aux enfants, et notamment le dossier de surendettement revient aussi aux enfants?
Alors, le plan de surendettement qui est élaboré, il est normalement d'une durée d'environ 4 ou 5 ans, hein, ça dépend des situations. On peut aller jusqu'à des durées de plan qui sont de l'ordre de 7 ans. Pour le cas de Marie de Paris, je ne connais pas exactement le dossier, il faudrait qu'on
Bien
regarde,
sûr, dans l'idée générale, quand un dossier de surendettement, les enfants doivent rembourser aussi, en cas de décès?
Non, alors là, je ne sais pas s'il y a un bien, je ne sais pas exactement la situation. Voilà, est-ce que Marie a un bien milieu? Si vous voulez, on regardera ensemble le dossier.
Pas mal de questions qui nous demandent aussi... Alors, j'entends qu'elle n'a pas de bien immobilier. Voilà, est-ce que ça a déjà un début de réponse pour vous?
Oui, donc, normalement, le plan qui est effectué, effectivement, il va être pour faire correspondre la capacité de remboursement de Marie avec ses charges et normalement pour apurer les dettes sur le plan.
Parce que Pauline Dujardin, il faut peut-être le rappeler, il faut le redire qu'à la fin, personne n'efface l'ardoise. Hein. Il faudra toujours payer les dettes. Ça ne s'efface pas comme ça. Le surendettement, il y a un dossier, mais au final, il faut bien tout rembourser.
Alors, ça dépend en fait. Hein. Pour revenir juste 2 minutes sur la situation de Marie, effectivement, il n'y a pas de bien immobilier. Moi, j'invite Marie soit à recontacter la Banque de France, soit même à venir nous voir en Ile-de-France chez Crésus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier de surendettement, il est bien fait pour une personne, en fonction, comme le disait Hélène Tanguy, de son budget, de sa capacité de remboursement. Une fois que si une personne décède, en fait, le plan de surendettement va s'annuler, entre guillemets, s'il est encore en cours. Et donc, les dettes restantes vont éventuellement être transmises aux enfants. En fait, ça va faire partie du patrimoine qui va faire partie de l'héritage. Il y a le plus, imaginons, un bien qui descend des parents, mais il y a aussi le moins, les dettes qui restent grévées sur le plan. Après, sur votre question, alors c'est pas exactement ça, dans le sens où il est possible, la procédure de surendettement permet, dans des cas particuliers, lorsque des personnes n'ont pas de capacité de remboursement du tout et n'ont pas d'avenir, dans un avenir assez proche, d'avoir une capacité de remboursement, où là, il est effectivement possible d'avoir un effacement de dette. Par contre, et c'est très important de l'avoir à l'idée parce que ça fait partie des clichés qu'on a sur le surendettement, c'est beaucoup d'aménagement de dette, comme vous le disiez, même s'il est possible, dans certains cas, d'obtenir un effacement de dette.
Question sur le fonctionnement de la commission de surendettement, Hélène Tanguy. Comment ça fonctionne, cette commission de surendettement de la Banque de France? Qui décide de quoi dans cette affaire?
Alors, une commission de surendettement, vous en avez une par département. Elle est composée de 7 personnes. Elle est présidée par le préfet ou par son représentant. Vous allez avoir un représentant des finances publiques, également 2 représentants, l'un des établissements de crédit, l'autre des consommateurs. Vous allez avoir également un représentant de l'économie sociale et familiale, et puis un juriste. Et puis, son secrétariat est tenu par le directeur de la Banque de France ou son représentant dans chaque département. Alors, selon le nombre de dossiers, eh bien, cette commission, elle va se réunir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, parfois tous les mois. On va lui présenter, donc la Banque de France va présenter les dossiers qu'elle aura étudiés et la commission va décider de la recevabilité du dossier. Est-ce que vous faites bien partie, vous êtes bien éligible à la procédure de surendettement? Et donc la Banque de France va également proposer une solution, un plan de surendettement qui va être discuté en commission.
Pas mal de questions également, et je me tourne peut-être vers vous, Sandra Wabian, pour le Centre de recherche de l'étude et de l'observation des conditions de vie. Il y a aussi les addictions aux jeux d'argent, des gens qui s'endettent pour jouer au poker, par exemple, sur Internet. Y a-t-il, ci et là, des parcours d'accompagnement pour non seulement peut-être les prendre en charge, mais surtout travailler avec eux? Je vais peut-être vous poser plutôt, je vois que vous levez les yeux en l'air au Crédoc, je vais me retourner vers Pauline Dujardin. Est-ce qu'il y a chez Crésus des parcours d'accompagnement pour les addictions au poker?
Alors, au poker particulièrement, je dirais, on n'a pas la filière poker.
Non, mais on a compris l'idée générale.
Jeu, exactement, et sur l'idée, sur l'addiction au jeu, effectivement, nous, c'est des, c'est, alors, on va pas aider les gens sur l'addiction en elle-même, et on dit d'ailleurs toujours aux gens, nous, on veut bien vous aider sur le plan financier, mais en fait, il faut régler le problème d'addiction. Par contre, on a beaucoup de partenariats avec des structures, hein, notamment médicales, qui prennent en charge ces personnes, qui leur font un suivi, et ensuite, effectivement, hein, on va aider la personne à gérer le côté plutôt financier. D'ailleurs, on travaille hein, en partenariat, parfois avec la Française des Jeux, qui nous transmet ses addicts pour les aider à s'en sortir.
Et puis, il faut penser aux enfants, nous dit cet auditeur. Est-ce que le surendettement est un sujet qui devrait être abordé par l'éducation nationale? Je me retourne aussi vers vous, Sandra Wabian.
En tout cas, l'éducation au budget fait partie des missions, par exemple, de certaines associations. Même s'il faut quand même rappeler que les ménages les plus modestes sont des experts en fait de leur budget, c'est-à-dire que le plus souvent ils ont développé tout un tas de stratégies pour essayer de tenir leur budget, donc aller chercher les promotions dans les magasins, repousser certaines dépenses, limiter des équipements, des achats d'équipements. Donc voilà, la situation du surendettement, c'est quand même une situation très particulière, mais effectivement une éducation au budget, à comment est-ce qu'on gère un budget, ça pourrait faire partie de l'éducation.
Hélène Tanguy, directrice des particuliers de la Banque de France. On a eu tout à l'heure un message très sympa sur le travail que vous faites à la Banque de France. J'en ai un autre beaucoup moins sympa pour les banques en général. Message d'Emmanuel sur WhatsApp sur le rôle des banques. Emmanuel est un ancien surendetté. Il voudrait pointer le rôle des banques qui n'alertent pas, qui n'aident pas et qui et augmentent l'endettement, notamment avec les frais et les impôts. Les banques ne font pas de cadeau, dit cet auditeur Emmanuel sur WhatsApp. Vous en pensez quoi?
Alors, depuis une dizaine d'années, les banques ont fait de gros progrès en matière de détection des personnes fragiles, notamment grâce à des discussions que nous menons avec elles et avec les associations dont notre observatoire de l'inclusion bancaire. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, les banques sont dans l'obligation de détecter la fragilité des particuliers. Par exemple, lorsqu'un particulier a des incidents sur son compte en banque dans un mois, lorsqu'elle a des ressources insuffisantes en compte, la banque va détecter que la personne est fragile et va devoir du coup lui proposer des actions, lui proposer notamment ce qu'on appelle l'offre clientèle fragile. Lorsque la personne elle est détectée comme fragile, ses frais sont automatiquement plafonnés.
Selon quels critères détecter fragile?
Donc détecter fragile, on regarde si la personne a par exemple des incidents, à des retards, des découvertes, des incidents sur son compte. On va regarder si ses ressources sur son compte sont, par exemple, à un niveau assez faible, inférieur au SMIC ou inférieur au seuil de pauvreté. À partir de cette détection qui a été grandement améliorée, la banque va pouvoir agir. Actuellement, on détecte à peu près plus de 4 millions de personnes fragiles en France. Donc, c'est important. Il y a eu un gros effort de prévention. Et puis, donc, on fait cette offre, les banques font cette offre clientèle fragile qui concerne plus de 1 million de personnes en France. Et lorsque vous êtes avec cette offre de clientèle fragile, eh bien vos frais vont être plafonnés. Vos frais bancaires et vos frais d'incident sont considérablement allégés. Donc je dirais peut-être, effectivement, la situation à laquelle notre auditeur fait référence, elle a pu exister, elle a pu arriver. Il y a eu de gros progrès ces dernières années.
Pauline Dujardin, pas mal de questions aussi au standard sur le rôle des auto-entrepreneurs, les indépendants auto-entrepreneurs notamment. Vous les retrouvez parfois dans vos associations, ils n'ont rien vu venir?
Ils n'ont rien vu venir, disons que c'est une conjonction. On voit de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui viennent nous voir. Je précise auto-entrepreneurs et pas indépendants au sens large, il y en a qui viennent nous voir aussi, mais parce que c'est des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat sans forcément avoir toutes les clés pour développer leur activité. Donc ça, c'est une des difficultés, avec une difficulté plus grande encore pour les auto-entrepreneurs, dans le sens où ils n'ont pas forcément d'acteurs prévus pour les aider en cas de difficulté. Après, aujourd'hui, il y a eu des progrès qui ont été faits également, donc les indépendants ne peuvent pas bénéficier de la procédure de surendettement. Enfin, ils ne peuvent pas déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France. Ils doivent se diriger vers le tribunal qui ensuite va pouvoir les orienter vers la procédure de surendettement.
Alors, je vous pose la question que j'ai un peu posée à Sandra Wabian tout à l'heure, et elle est relayée aussi par Pauline, 25 ans, à Caen, sur WhatsApp. Ce qui lui semble fou à Pauline, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas à faire un budget. On en parlait à l'instant, Pauline Dujardin, avec tous ces auto-entrepreneurs. Est-ce qu'il faudrait donner des outils pour apprendre très tôt à gérer un budget, pourquoi pas à l'école ?
Alors, à l'école, je ne sais pas si c'est bien, si c'est tout à fait adapté. Je pense qu'il y a des progrès qui sont faits dans le sens où le passeport éduque-fi, donc il va y avoir du budget à l'école, et ça, et en tout cas au collège, et ça, je pense que c'est vraiment, effectivement, très, très important. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait l'intervenante du Crédoc en disant ce qu'on passe sous, il se débrouille très bien. Non, il se débrouille pas très bien, mais ce que je veux dire, c'est que en général, il gère, vu la contrainte du budget, il gère avec, comme ils peuvent, et souvent, des fois, avec des stratégies auxquelles on n'avait pas pensé.
Sandra Wabian, pour le Crédoc, est-ce que vous avez une visibilité pour 2025 sur le surendettement? On vient de parler 2024. Compte tenu du contexte politique, est-ce que vous arrivez à tirer quelques flèches, quelques tangentes et quelques perspectives pour 2025? Alors, en termes de surendettement?
Non, mais par contre, sur la fragilité des ménages, ce qu'on peut dire, c'est que on a quand même des ménages qui ont eu du mal à absorber cette augmentation des prix pendant 2 ans, même si aujourd'hui l'inflation est contenue, eh bien ils sont quand même encore en difficulté. On a une personne sur deux qui nous dit qu'elle a perdu du pouvoir d'achat, et les perspectives sont un petit peu meilleures que ce que par le passé, mais elles restent quand même relativement, le moral des ménages, si je puis dire, reste relativement sombre. Donc on est plutôt sur une fragilisation des ménages, et c'est vrai que le contexte politique va pas favoriser non plus une reprise économique, puisque les entreprises sont un peu en attente de savoir à quelle sauce elles vont être mangées.
Il y a bien
est-ce que ça va se traduire dans du surendettement? Ça, je pourrais pas vous le dire.
Il y a bien une corrélation, demande cette auditrice, entre le taux de pauvreté qui augmente en France. On est quoi, autour de 8%, je pense, le taux de pauvreté en
alors,
France
aujourd'hui? Alors, tout dépend si on regarde...
En dessous de 1100 euros
Voilà, alors c'est 14,5% pour les gens qui sont à 60% du revenu médian, et c'est 8% pour ceux qui sont vraiment les plus pauvres, qui sont à 50% du niveau de vie médian.
Et il y a bien une corrélation entre le taux de pauvreté en France et le taux de surendettement?
Alors, pas complètement, puisque comme l'a dit Hélène Tanguy, en fait, on a eu une diminution du nombre de dossiers de surendettement, alors qu'on a plutôt, depuis une dizaine d'années, depuis la crise de 2008, on a plutôt une augmentation du taux de pauvreté. Donc, on ne peut pas faire une relation directe. Il y a aussi, en fait, le facteur de la régulation qui va avoir un impact important.
Hélène Tanguy et la Banque de France, aujourd'hui, une personne endettée avec plusieurs crédits, elle n'a qu'un seul ticket, un seul guichet, un fichier unique à la Banque de France. Ça, c'est un peu une révolution, non ?
Un seul guichet, donc un numéro unique, le 3414, pour appeler, avoir des renseignements sur sa situation, sur les solutions d'inclusion à sa disposition. Donc, parce que le surendettement, c'est une des solutions, mais il y a également d'autres solutions d'inclusion financière. Donc, la personne va pouvoir appeler. Donc, on tient aussi beaucoup à cet accueil physique dans nos guichets. Il s'agit pour nous de ne pas simplement dématérialiser toutes les procédures et de ne pas faire que du dépôt en ligne. Et donc, on tient beaucoup à cet accueil physique. On a tous nos agents, la Banque de France. Tout à l'heure, j'étais contente d'entendre l'auditeur de La Rochelle dire combien il avait apprécié l'accueil de la Banque de France. Parce que c'est vrai que voilà, on reçoit les personnes, on les appelle à la fois pour comprendre leur situation et pour leur expliquer le plan de surendettement. Je crois que c'est important. Ce sont souvent des choses assez compliquées. On essaie d'expliquer, de faire de la pédagogie sur le plan. Donc voilà, donc on est vraiment à la disposition. Et je tiens à le dire, c'est une procédure voilà, gratuite et confidentielle. Donc voilà, elle est accessible à tous.
Pauline Desjardins, vous souhaitiez réagir sur ce point ?
Oui, je vous remercie. Alors déjà, je voulais reprendre les propos de l'auditeur et féliciter et remercier Hélène Tanguy et les équipes de la Banque de France qui font effectivement un travail formidable en coopération avec les associations et qui sont là vraiment pour aider les gens. Et peut-être pour rebondir sur vos derniers mots, Madame Tanguy, en plus, la procédure de surendettement, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, je dis souvent, c'est pas une procédure sanction, c'est une procédure protection. La Banque de France, dans le cadre de la procédure de surendettement, elle est vraiment là pour protéger les gens en difficulté financière.
Une dernière question pour finir, je vous la pose, Hélène Tanguy, à la Banque de France. Quelles sont les conséquences à long terme d'avoir été surendetté un jour? Est-ce que ça va nous suivre longtemps?
Alors, donc la procédure, donc je le disais, hein, elle a une durée qui est variable, mais avec un maximum de 7 années. Donc, comme je disais, la procédure, elle est confidentielle. Hein, donc, contrairement à ce qui peut exister dans certains pays...
C'est peut-être confidentiel, mais quand on fait un nouveau crédit immobilier, il va bien falloir qu'on prouve quelque chose.
Alors, du moment que vous n'êtes plus en surendettement, que vous respectez votre plan, que vous n'avez pas d'autres incidents bancaires, par exemple, vous n'allez plus être présent au fichier des incidents de remboursement. Donc, par exemple, votre situation sera neutre pour l'extérieur.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit cet auditeur? Être fiché à la Banque de France, on l'est à vie. Vous nous dites que non, mais lui a le sentiment que, pardon de vous contredire, que oui, ça va le suivre.
Non, on l'est pas à vie. Pourquoi, je rappelle, hein, pourquoi le fichage donc dans une telle situation, c'est aussi pour protéger la personne, pour qu'elle ne contracte pas de nouveaux crédits, qu'elle n'aggrave pas sa situation.
Eh bien, merci à toutes les trois. Le téléphone sonne, c'est terminé.